Cette guerre n'est pas une guerre ordinaire. C'est la guerre du peuple russe tout entier.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Quelle est la vraie histoire de la grande guerre patriotique de Staline? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Nicolas Wert. Aujourd'hui, troisième épisode, le tournant de 1942 et la bataille de Stalingrad. À la fin de l'année 1941, il s'en est fallu de peu que Moscou ne subisse le même sort que Leningrad. En décembre, alors que les troupes allemandes atteignent les faubourgs de la capitale, les soviétiques lancent une contre-offensive qui met un coup d'arrêt à la blitzkrieg allemande. Mais en janvier 1942, la situation reste très grave pour les soviétiques. L'armée d'Hitler contrôle une grande partie du territoire et entend bien continuer sa progression. Et au printemps, plusieurs choix stratégiques désastreux de Staline, contre l'avis de l'état-major, entraînent de nouvelles lourdes pertes pour l'armée rouge. À la fin de l'été 1942, la 6e armée allemande atteint la ville de Stalingrad sur la Volga. Le général Paulus a reçu d'Hitler l'ordre de prendre la ville. Cette grande offensive, espère le Führer, sera celle qui vaincra enfin l'Union soviétique. Et en ouvrant la voie vers le Caucase et les champs pétrolifères de Bakou, elle lui offrira les ressources dont l'Allemagne manque cruellement. Début septembre, un déluge de feu s'abat sur Stalingrad, cette cité modèle, fierté de l'Union soviétique. C'est le début d'une des batailles les plus acharnées et les plus décisives de la Grande Guerre patriotique, la bataille de Stalingrad.
France Inter, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Stalingrad. De jour et de nuit, les escadrilles allemandes soutiennent l'avance des fantassins qui encerclent la ville par le nord, l'ouest et le sud. Survolant la Volga, par vagues successives, les bombardiers pilonnent les lignes de fortifications soviétiques et vont attaquer en piqué les concentrations de troupes.
Dans les rues de la ville, les deux armées se livrent à un combat titanesque. L'air est rempli du hurlement infernal des Stuka, écrit un officier de la Wehrmacht, du tonnerre de l'artillerie, du rugissement des moteurs, des chenilles de chars, des lances-fusées et des orgues de Staline. Le tout dans l'oppressante chaleur d'une ville ravagée par les flammes. En octobre, les Allemands ont pris les trois quarts de la ville. Mais les Soviétiques résistent avec un acharnement qui étonne l'ennemi. Les murs des usines, toutes les superstructures s'effondrent sous une avalanche de bombes, mais l'ennemi réapparaît comme par enchantement et utilise ces nouvelles ruines pour fortifier ses positions défensives, note un général allemand. Les deux camps vivent le même enfer. On crève de faim, on crève de froid, les hommes tombent comme des mouches, personne ne songe à les enterrer, il y en a partout, sans bras, sans jambes, sans yeux, le bide plein de trous. En décembre, alors que les troupes allemandes sont encerclées et affamées, les services de propagande soviétiques diffusent des messages par haut-parleur pour démoraliser encore plus l'ennemi. Stalingrad est le tombeau de Hitler. La bataille se termine le 2 février 1943 par la capitulation de Paulus, malgré l'ordre de Hitler de ne pas céder. La grande victoire soviétique de Stalingrad, saluée dans le monde libre comme l'annonce de la fin de la guerre, a coûté la vie à plus d'un million de soldats soviétiques et près de 800 000 soldats ennemis. Nicolas Wert, pourquoi était si important pour les soviétiques de gagner la bataille de Stalingrad ?
Stalingrad était d'abord évidemment un symbole important puisque porter le nom de Staline, c'était une ville soviétique modèle des premiers et deuxièmes plans quinquennaux, une ville industrielle, une ville typique du nouvel urbanisme soviétique. C'était aussi évidemment un nœud très important parce que si les Allemands prenaient Stalingrad, ils pouvaient contrôler donc la Volga à ce niveau-là et donc ils pouvaient remonter vers Moscou. C'était d'ailleurs une des idées de prendre Moscou à revers, enfin à partir du sud. Donc c'était extrêmement important, à la fois d'un point de vue stratégique, militaire et symbolique, que de ne pas perdre Stalingrad pour les Soviétiques.
Après la succession de défaites, donc de 1941 début 1942, comment expliquer ce retournement de situation, les victoires soviétiques de 1942 et 1943 ?
Il y a évidemment l'extraordinaire effort militaire soviétique qui a été, au fond, assuré dès l'automne 41 par une évacuation réussie de plus de 1500 usines vers l'Est, vers l'Oural en particulier, et ce qui a permis de continuer la production qui va s'accélérer de plus en plus d'armement, et à partir de fin 42, début 43, la production militaire soviétique est supérieure à la production militaire allemande. Il y a évidemment aussi une aide considérable apportée par les alliés, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, en matière de matériel militaire de qualité. Mais je pense qu'il faut bien mettre l'accent quand même sur cet extraordinaire effort de guerre et d'une économie de guerre qui fonctionne désormais à plein régime. La nature même de l'économie soviétique, qui était une sorte d'économie de guerre en permanence a permis cette reconversion tout à fait extraordinaire d'activité civile en activité militaire, avec un travail acharné, quasiment esclavagiste, de la main-d'œuvre ouvrière évacuée, avec une très grande proportion évidemment de femmes qui travaillaient dans ces usines d'armement jusqu'à 16 heures par jour. Et donc c'est au fond un travail de tout un peuple évacué, mobilisé, qui avait l'habitude depuis au fond le grand effort des deux premiers plans quinquennaux de travailler très dur.
Cette victoire de Stalingrad, c'est la victoire du peuple russe. Est-ce qu'on peut comparer cette bataille à celle de Verdun, 1916, la Première Guerre mondiale, où là aussi les soldats défendaient leurs terres ?
Il y a évidemment cette dimension de la défense de
la terre
russe, de la terre sacrée. Et ça, ça a été évidemment le coup de génie, on peut dire, idéologique et propagandiste de Staline dès son fameux discours du 3 juillet 1941, d'appeler à une guerre sacrée et d'inscrire cette guerre dans la lignée des grandes guerres patriotiques, à commencer évidemment par la première grande guerre patriotique, qui était celle de 1812 contre les armées de Napoléon. Évidemment, cette mobilisation patriotique était beaucoup plus efficace que si on avait appelé à une guerre, par exemple, de nature idéologique, une guerre pour la victoire du marxisme. Voilà, par exemple.
Et le terme « grande guerre patriotique », quand est-ce qu'il naît ?
Le terme de « grande guerre patriotique » naît dès le troisième jour de la guerre. C'est
en 41.
Tôt. Voilà,
oui.
Donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît très très tôt.
La bataille de Stalingrad est entrée dans la légende au point d'éclipser le siège de Leningrad, ou la bataille tout autant décisive de Koursk en 1943. Comment ça se fait ?
Eh bien, parce qu'au fond, c'est la première grande défaite de la Wehrmacht. Il n'y en avait pas eu d'autres de cette ampleur, avec une armée entière faite prisonnière, sans parler de l'armée italienne, de l'armée roumaine.
Parce que les Allemands ne sont pas seuls.
Les Allemands ne sont pas seuls. Et sa première capitulation aussi, évidemment, d'une armée avec pas moins d'un maréchal, une quinzaine de généraux. Donc c'est très important aussi d'un point de vue, enfin d'abord l'arrêt de cette offensive allemande, mais aussi symboliquement la capitulation d'une armée allemande, fait sans précédent dans cette Seconde Guerre mondiale.
Merci Nicolas Werth. Dans le prochain épisode, nous arriverons à la victoire finale soviétique en 1945 et à la prise de Berlin.